Aristote, Morale à Nicomaque, Livre 8, Suite. Chapitre 9. Sommaire. Rapport de la justice et de l'amitié sous toutes ses formes. Loi générale des associations, quelles qu'elles soient. Toutes les associations particulières ne sont que des parties de la grande association politique. Chacun dans l'État concourt à l'intérêt commun qui est le but de l'association générale. Fête solennelle, sacrifice, banquet, origine des fêtes sacrées. Paragraphe 1. Il semble, comme on l'a dit au début, que l'amitié et la justice concernent les mêmes objets et s'appliquent aux mêmes êtres. Dans toute association, quelle qu'elle soit, on trouve à la fois la justice et l'amitié dans un certain degré. Ainsi, l'on traite comme des amis ceux qui naviguent avec vous, ceux qui combattent près de vous à la guerre, en un mot, tous ceux qui sont avec vous dans des associations d'un genre quelconque. Aussi loin que s'étend l'association, aussi loin s'étend la mesure de l'amitié. Parce que ce sont là aussi les limites de la justice elle-même. Le proverbe « tout est commun entre amis » est bien vrai, puisque l'amitié consiste surtout dans l'association et la communauté. Paragraphe 2. Tout est commun également entre frères et même entre camarades. Dans les autres relations, la propriété de chacun est séparée et elle se restreint d'ailleurs un peu plus pour ceux-ci, un peu moins pour ceux-là, car les amitiés sont, elles aussi, plus ou moins vives. Paragraphe 3. Les rapports de justice et les droits ne diffèrent pas moins non plus, et ces rapports ne sont pas les mêmes des parents aux enfants et des frères les uns envers les autres, ni des camarades à leurs compagnons, ni des citoyens à leurs concitoyens. Et l'on peut appliquer aussi bien ces réflexions à toutes les autres espèces d'amitié. Paragraphe 4. Les injustices sont également différentes envers chacun d'eux, et elles prennent d'autant plus d'importance qu'elles s'adressent à des amis plus intimes. Par exemple, il est plus grave de dépouiller un camarade de sa fortune qu'un simple concitoyen. Il est plus grave d'abandonner un frère qu'un étranger et de frapper son père que toute autre personne. Le devoir de la justice s'accroît naturellement avec l'amitié parce que l'une et l'autre s'appliquent aux mêmes êtres et tendent à être égales. Paragraphe 5. Du reste, toutes les associations particulières ne semblent que des portions de la grande association politique. On se réunit toujours pour satisfaire quelque intérêt général et chacun tire de la communauté une partie de ce qui est utile à sa propre existence. L'association politique n'a évidemment en vue que l'intérêt commun, soit à son principe en se formant, soit en se maintenant plus tard. C'est là uniquement ce que recherchent les législateurs, et le juste, selon eux, est ce qui est conforme à l'utilité générale. Paragraphe 6. Les autres associations ne tendent à satisfaire que des parties de cet intérêt total. Ainsi, les matelots le servent en ce qui concerne la navigation, soit pour la production des richesses, soit sous tel autre rapport. Les soldats le servent en ce qui se rapporte à la guerre, poussé soit par le désir de l'argent, soit par le désir de la victoire, ou par leur dévouement à l'État. On pourrait en dire autant des gens qui sont associés dans la même tribu, dans le même canton. Paragraphe 7. Quelques-unes de ces associations semblent n'avoir pour but que le plaisir, par exemple celle des banquets solennels et celle des repas, où chacun fournit son écho. Elles se forment pour pour offrir un sacrifice en commun ou pour le simple agrément de se trouver ensemble. Mais toutes ces associations sont comprises, à ce qu'il semble, sous l'association politique, puisque cette dernière association ne recherche pas simplement l'utilité actuelle, mais l'utilité de la vie tout entière des citoyens. En faisant des sacrifices, on rend hommage aux dieux dans ces réunions solennelles, et en même temps, on se donne à soi-même un repos que l'on goûte avec plaisir. Anciennement, les sacrifices et les réunions sacrées se faisaient après la récolte des fruits, et c'était comme des prémices offertes au ciel, parce que c'était les époques de l'année où l'on avait le plus de loisirs. Paragraphe 8. Ainsi donc, je le répète, toutes les associations spéciales ne paraissent être que des parties de l'association politique, et par suite, toutes les liaisons et les amitiés revêtent le caractère de ces différentes associations. Chapitre 10. Sommaire. Considération générale sur les diverses formes de gouvernement. Royauté, aristocratie, timocratie ou république. Déviation de ces trois formes. La tyrannie, l'oligarchie, la démagogie. Succession des diverses formes politiques. Comparaison des gouvernements différents avec les diverses associations que présente la famille. Rapport du père aux enfants. Pouvoir paternel chez les Perses, rapport du mari à la femme, rapport des frères entre eux. Paragraphe 1. Il y a trois espèces de constitution et autant de déviations qui sont comme les corruptions de chacune d'elles. Les deux premières sont la royauté et l'aristocratie, et la troisième, c'est la constitution qui, fondée sur un sens plus ou moins élevé, pourrait à cause de cette circonstance même être appelée timocratie et qu'on appelle le plus habituellement république. Paragraphe 2. Le meilleur de ces gouvernements, c'est la royauté. Le plus mauvais, la timocratie. La déviation de la royauté, c'est la tyrannie. Toutes les deux, tyrannie et royauté, sont des monarchies, mais elles n'en sont pas moins fort différentes. Le tyran n'a jamais en vue que son intérêt personnel. Le roi ne pense qu'à celui de ses sujets. On n'est pas vraiment roi si l'on n'est point parfaitement indépendant et supérieur au reste des citoyens en toute espèce de bien et d'avantage. Or, un homme placé dans ces hautes conditions n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il ne peut donc jamais songer à son utilité particulière. Il ne songe qu'à celle des sujets qu'il gouverne. Un roi qui n'aurait pas cette vertu ne serait qu'un roi de circonstance fait par le choix des citoyens. La tyrannie est surtout le contraire de cette royauté véritable. Le tyran ne poursuit que son intérêt personnel, et ce qui suffit pour montrer aussi évidemment que possible que ce gouvernement est le pire de tous, c'est que l'opposé du meilleur en tout genre est le pire. Paragraphe 3. La royauté, en se corrompant, passe à la tyrannie, car la tyrannie n'est que la perversion de la royauté, et le mauvais roi devient un tyran. Souvent aussi, le gouvernement dérive de l'aristocratie à l'oligarchie par la corruption des chefs qui se partagent entre eux la fortune publique contre toute justice, conservent pour eux seuls ou la totalité, ou du moins la plus grande partie, des biens sociaux, maintiennent toujours les pouvoirs dans les mêmes mains et mettent la richesse au-dessus de tout le reste. À la place des citoyens les plus dignes et les plus honnêtes, ce sont alors quelques gens aussi peu nombreux que méchants qui gouvernent. Enfin, la constitution dévie de la timocratie à la démocratie, deux formes politiques qui se touchent et sont limitrophes. La timocratie s'accommode assez bien de la foule, et tous ceux qui sont compris dans le sens fixé deviennent par cela seuls égaux. La démocratie est d'ailleurs la moins mauvaise de ces déviations constitutionnelles, parce qu'elle ne s'éloigne que très peu de la forme de la République. Telles sont les lois des changements que subissent le plus souvent les États. Et c'est en éprouvant des modifications successives qu'ils dévient le moins possible et le plus aisément de leurs principes. Paragraphe 4. On pourrait trouver des ressemblances et comme des modèles de ces gouvernements divers dans la famille elle-même. L'association du père avec ses fils a la forme de la royauté, car le père prend soin de ses enfants. Et voilà comment Homère a pu appeler Jupiter le père des hommes et des dieux. Ainsi, la royauté tend à être un pouvoir paternel. Chez les Perses, au contraire, le pouvoir du père sur sa famille est un pouvoir tyrannique. Leurs enfants sont pour eux des esclaves, et le pouvoir du maître sur ses esclaves est tyrannique nécessairement. Dans cette association, l'intérêt seul du maître est en jeu. Du reste, cette autorité me paraît légitime et bonne. Mais l'autorité paternelle, comme la pratiquent les Perses, est complètement fausse, car le pouvoir doit varier quand les individus varient. Paragraphe 5. L'association du mari et de la femme constitue une forme de gouvernement aristocratique. L'homme y commande conformément à son droit et seulement dans les choses où il faut que ce soit l'homme qui commande. Il abandonne à la femme tout ce qui ne convient qu'à son sexe. Mais quand l'homme prétend décider souverainement de tout sans exception, il passe à l'oligarchie. Il agit alors contre le droit, il méconnaît son rôle et il ne commande plus au nom de sa supériorité naturelle. Quelquefois, ce sont les femmes qui commandent quand elles apportent de grands héritages. Mais ces dénominations étranges ne viennent pas du mérite. Elles ne sont que le résultat de la richesse et de la force qu'elles donnent, tout comme il arrive dans les oligarchies. Paragraphe 6. L'association des frères représente le gouvernement timocratique, car ils sont égaux, si ce n'est toutefois quand une trop grande différence d'âge ne permet plus entre eux d'amitié vraiment fraternelle. Quant à la démocratie, elle se retrouve surtout dans les familles et les maisons qui ne sont pas gouvernées par un maître, car alors tous sont égaux, et aussi dans celles où le chef est trop faible et laisse à chacun la puissance de faire ce qu'il veut. Chapitre 10. Sommaire. Sous toutes les formes de gouvernement, les sentiments d'amitié et de justice sont toujours en rapport les uns avec les autres. Les rois, pasteurs des peuples, bienfaits de l'association paternelle. L'affection du mari pour la femme est aristocratique. Celle des frères entre eux est timocratique. La tyrannie est la forme politique où il y a le moins d'affection et de justice. La démocratie et celle où il y en a le plus. Paragraphe 1. L'amitié dans chacun de ces États ou gouvernements règne dans la même mesure que la justice. Ainsi, le roi aime ses sujets à cause de sa supériorité qui lui permet tant de bienfaisance envers eux, car il fait le bonheur des hommes sur lesquels il règne, puisque, grâce aux vertus qui le distinguent, il s'occupe de les rendre heureux avec autant de soin qu'un berger s'occupe de son troupeau. Et c'est en ce sens qu'Homère appelle Agamemnon le pasteur des peuples. Paragraphe 2. Tel est aussi le pouvoir paternel. Et la seule différence, c'est que ses bienfaits sont plus grands encore. C'est le Père qui est l'auteur de la vie, c'est-à-dire de ce qu'on regarde comme le plus grand des biens. C'est le Père qui donne la nourriture à ses enfants et l'éducation, soin que l'on peut aussi attribuer à des ascendants plus âgés que le Père. Car la nature veut que le Père commande à ses fils, les ascendants aux descendants, et le roi à ses sujets. Ces sentiments d'affection et d'amitié tiennent à la supériorité de l'une des parties, et c'est là ce qui nous porte à honorer nos parents. La justice, non plus que la fiction, n'est pas égale dans tous ses rapports, mais elle se proportionne au mérite de chacun, absolument comme le fait aussi l'affection. Paragraphe 3. Ainsi, l'amour du mari pour sa femme est un sentiment tout pareil à celui qui règne dans l'aristocratie. Dans cette union, les principaux avantages sont attribués au mérite et reviennent au plus digne, et chacun y obtient ce qui lui convient. Telle est encore, dans ses rapports, la répartition de la justice. Paragraphe 4. L'amitié des frères ressemble à celle des camarades. Ils sont égaux et à peu près de même âge. Et dehors, ils ont d'ordinaire et la même éducation et les mêmes mœurs. Dans le gouvernement démocratique, l'affection des citoyens entre eux ne ressemble pas mal à l'affection qui existe entre les frères. Les citoyens y tendent à être tous égaux et honnêtes. Le commandement y est alternatif et parfaitement égal. Et telle est aussi l'affection des citoyens entre eux. Paragraphe 5. Mais dans les formes dégénérées de ces gouvernements, comme la justice décroît par degrés, l'affection, l'amitié y subissent aussi les mêmes phases. Et où elle se retrouve le moins, c'est dans la plus mauvaise de toutes ses formes politiques. Ainsi, dans la tyrannie, il n'y a plus, ou du moins il y a bien peu d'amitié, car là où il n'y a rien de commun entre les chefs et les subordonnés, il n'y a pas d'affection possible, non plus que de justice. Il ne reste plus entre eux que le rapport de l'artisan à l'outil, de l'âme au corps, du maître à l'esclave. Toutes ces choses sont fort utiles sans doute pour ceux qui s'en servent. Mais il n'y a point d'amitié possible envers les choses inanimées, pas plus qu'il n'y a de justice envers elles, pas plus qu'il n'y en a de l'homme au cheval ou au bœuf, ou même du maître à l'esclave en tant qu'esclave. C'est qu'il n'y a rien de commun entre ces êtres. L'esclave n'est qu'un instrument animé, de même que l'instrument est un esclave inanimé. Paragraphe 6. En tant qu'esclave, il ne peut pas exister d'amitié envers lui. Il n'y en a qu'en tant qu'il est homme. C'est qu'en effet, il s'établit des rapports de justice de la part de tout homme à celui qui peut prendre part avec lui à une loi et à une convention commune. Mais il ne s'établit des rapports d'amitié qu'en tant qu'il est homme. Paragraphe 7. C'est dans les tyrannies que les sentiments d'amitié et de justice sont les moins étendus. C'est au contraire dans la démocratie qu'ils sont poussés le plus loin, parce qu'une foule de choses y sont communes entre des citoyens qui sont tous égaux. Chapitre 12. Sommaire. Des affections de famille. De la tendresse des parents pour leurs enfants et des enfants pour leurs parents. La première est en général plus vive que l'autre. Affection des frères entre eux, motifs sur lesquels elle s'appuie. Affection conjugale, les enfants sont un lien de plus entre les époux. Rapports généraux de justice entre les hommes. Paragraphe 1. Toute amitié repose donc sur une association, ainsi que je l'ai déjà dit. Mais peut-être pourrait-on distinguer de toutes les autres affections celle qui naît de la parenté et celle qui vient d'un rapprochement volontaire entre des camarades. Quant au lien qui unit les citoyens entre eux, ou qui s'établit entre les membres d'une même tribu, ou les passagers dans un voyage de mer, et quant à toutes les liaisons analogues, ce sont des rapports de simple association plutôt que toute autre chose. Elles ne semblent que la suite d'un certain contrat. Et l'on pourrait encore ranger dans la même classe les liaisons qui résultent de l'hospitalité. Paragraphe 2. L'amitié, l'affection qui naît de la parenté, semble avoir également plusieurs espèces. Mais toutes les affections de ce genre paraissent dérivées de l'affection paternelle. Les parents aiment leurs enfants comme étant une partie d'eux-mêmes, et les enfants aiment leurs parents comme tenant d'eux tout ce qu'ils sont. Mais les parents savent que les enfants sont sortis d'eux bien mieux que les êtres qu'ils ont produits ne savent qu'ils viennent de leurs parents. L'être de qui procède la vie est bien plus intimement lié à celui qui l'a engendré que celui qui a reçu la vie n'est lié à celui qui l'a fait. L'être sorti d'un autre être appartient à celui d'où il naît, comme nous appartient une partie de notre corps, une dent, un cheveu, et d'une façon générale, comme une chose quelconque appartient à celui qui la possède. Mais l'être qui a donné l'existence n'appartient pas du tout à aucun des êtres qui viennent de lui, ou du moins, il leur appartient moins étroitement. Ce n'est d'ailleurs qu'après un temps bien long qu'il peut leur appartenir. Loin de là, les parents aiment sur le champ leurs enfants, et dès le premier moment de leur naissance, tandis que les enfants n'aiment leurs parents qu'après bien des progrès, bien du temps, et quand ils ont acquis intelligence et sensibilité. Et voilà bien encore ce qui explique pourquoi les mères aiment avec plus de tendresse. Paragraphe 3. Ainsi, les parents aiment leurs enfants comme eux-mêmes. Les êtres qui sortent d'eux sont en quelque sorte d'autres eux-mêmes, dont l'existence est détachée de la leur. Mais les enfants n'aiment leurs parents que comme étant issus d'eux. Les frères s'aiment entre eux parce que la nature les a fait naître des mêmes parents. Leur parité relativement aux parents de qui ils tiennent le jour est cause de la parité d'affection qui se manifeste entre eux. Aussi, dit-on, ils sont le même sang, la même souche et autres expressions analogues. Et de fait, ils sont en quelque sorte la même et identique substance, bien que dans des êtres séparés. Paragraphe 4. Du reste, la communauté d'éducation et la conformité de l'âge contribuent beaucoup à développer l'amitié qui les unit. On se plaît aisément quand on est du même âge. Et quand on a les mêmes penchants, on n'a pas de peine à devenir camarade. Voilà pourquoi l'amitié fraternelle ressemble beaucoup à celle que des camarades forment entre eux. Les cousins et les parents, à d'autres degrés, n'ont d'attachement réciproque que grâce à cette souche commune d'où ils sortent, c'est-à-dire qui leur donne les mêmes parents. Ceux-ci deviennent plus intimes, ceux-là plus étrangers, selon que le chef de la famille est pour chacun d'eux plus proche ou plus éloigné. Paragraphe 5. L'amour des enfants envers les parents et des hommes envers les dieux est comme l'accomplissement d'un devoir envers un être bienfaisant et supérieur. Les parents et les dieux nous ont donné les plus grands de tous les bienfaits. Ce sont eux qui sont les auteurs de notre être. Ils nous élèvent, et après notre naissance, il nous assure l'éducation. Paragraphe 6. Si, d'ailleurs, cette affection des membres de la famille leur procure en général plus de jouissance et d'utilité que les affections étrangères, c'est que la vie est plus commune entre eux. On retrouve dans l'affection fraternelle tout ce qui peut se trouver dans l'affection qui lie des camarades. Et j'ajoute qu'elle est d'autant plus vive que les cœurs sont plus honnêtes et en général se ressemblent davantage. On s'aime d'autant mieux l'un l'autre qu'on est habitué à vivre intimement ensemble dès la plus tendre enfance, qu'en étant né de mêmes parents, on a les mêmes mœurs, qu'on a été nourri et instruit de la même manière, et que les preuves qu'on fait si longtemps l'un de l'autre est venue rendre les liens aussi nombreux que solides. Paragraphe 7. Les sentiments d'affection sont proportionnés dans les autres degrés de parenté. L'affection entre mari et femme est évidemment un effet direct de la nature. L'homme est, par sa nature, plus porté encore à s'unir deux à deux qu'à s'unir à ses semblables par l'association politique. La famille est antérieure à l'État, et elle est encore plus nécessaire que lui, parce que la procréation est un fait plus commun que l'association chez les animaux. Dans tous les autres animaux, le rapprochement des sexes n'a que cet objet et cette étendue. Au contraire, l'espèce humaine cohabite non pas seulement pour procréer des enfants, mais aussi pour entretenir tous les autres rapports de la vie. Bientôt, les fonctions se partagent. Celles de l'homme et de la femme sont très différentes. Mais les époux se complètent mutuellement en mettant en commun leurs qualités propres. C'est là ce qui fait précisément qu'on trouve tout à la fois l'agréable et l'utile dans cette affection. Cette amitié peut même être celle de la vertu si les époux sont honnêtes l'un et l'autre. Car chacun d'eux a sa vertu spéciale et c'est par là qu'ils peuvent mutuellement se plaire. Les enfants deviennent en général un lien de plus entre les conjoints. Et c'est là ce qui explique pourquoi l'on se sépare plus aisément quand on n'a pas d'enfants. Car les enfants sont un bien commun aux deux époux. Et tout ce qui est commun est un nouveau gage d'union. Paragraphe 8. Mais rechercher comment il faut que le mari vive avec la femme, et en général l'ami avec son ami, c'est absolument la même chose que de rechercher comment ils doivent observer entre eux la justice. D'ailleurs, évidemment, ce ne sont pas les mêmes règles de conduite qu'on doit garder avec un ami ou envers un étranger, envers un camarade ou envers un simple compagnon dont le hasard ne vous rapproche que pour un temps. Chapitre 13. Sommaire. Les plaintes et les réclamations ne sont pas à craindre dans les amitiés par vertu. Elles sont plus fréquentes dans les amitiés par plaisir. Elles se produisent surtout dans les liaisons par intérêt. Deux espèces de liaisons d'intérêt, l'une purement morale, l'autre légale. Des règles à suivre dans la juste reconnaissance et l'acquittement des dettes ou des obligations qu'on a contractées. L'étendue d'un service doit-elle se mesurer sur l'utilité de celui qui en a profité ou sur la générosité de celui qui l'a rendu? Sentiment différent de l'obligé et du bienfaiteur, supériorité des amitiés par vertu. Paragraphe 1. Les amitiés sont donc de trois espèces, ainsi qu'on l'a dit au début, et dans chacune d'elles, les amis peuvent être ou dans une égalité complète ou dans un rapport de supériorité de l'un sur l'autre. Ainsi, ceux qui sont également bons peuvent être amis. Mais le meilleur peut aussi devenir l'ami d'un homme moins bon que lui. De même, encore, pour ceux qui se lient par plaisir. Et de même, enfin, pour ceux qui se lient par intérêt et dont les services peuvent être égaux ou différents en importance. Quand les deux amis sont des égaux, il faut qu'en vertu de cette égalité même, ils soient égaux dans l'affection qu'ils se portent, ainsi que dans tout le reste. Mais quand les amis sont inégaux, ils ne restent amis que par une affection qui doit être proportionnée à la supériorité de l'un des deux. Paragraphe 2. Les plaintes, les récriminations ne se produisent que dans l'amitié par intérêt toute seule, ou du moins, c'est dans celle-là qu'elles se produisent le plus fréquemment. On le conçoit sans peine. Ceux qui sont amis par vertu cherchent uniquement à se faire un bien réciproque, car c'est là le propre de la vertu et de l'amitié. Quand on n'a pour se diviser que cette noble lutte, on n'a point de plainte ni de combat à redouter entre soi. Personne ne se fâche qu'on l'aime et qu'on lui fasse du bien. Et si l'on a soi-même quelque bon goût, on se défend en rendant les services qu'on reçoit. Celui même qui a le dessus, obtenant au fond ce qu'il désire, ne pourrait faire des reproches à son ami puisque l'un et l'autre désirent uniquement le bien. Paragraphe 3. Il n'y a pas davantage lieu à discussion dans les amitiés par plaisir, car tous deux ont également ce qu'ils désirent s'ils ne veulent que le plaisir de vivre ensemble. Et l'on serait parfaitement ridicule de reprocher à son ami de ne pas se plaire dans ce commerce, parce qu'on peut toujours fort bien ne plus vivre avec lui. Paragraphe 4. Mais l'amitié par intérêt est fort exposée, je le répète, aux plaintes et aux reproches. Comme on ne se lie de part et d'autre qu'en vue d'un profit, on a toujours besoin de beaucoup plus qu'on a et l'on s'imagine recevoir moins qu'il ne convient. On se plaint alors de ne point trouver tout ce qu'on désire et tout ce qu'on croyait mériter à si juste titre. Tandis que, de leur côté, ceux qui donnent sont dans l'impuissance d'égaler jamais leurs dons aux besoins illimités de ceux qui les reçoivent. Paragraphe 5. Si l'on peut, dans le juste, distinguer un double caractère, le juste qui n'est pas écrit et le juste légal, on peut de même distinguer dans l'amitié ou liaison par intérêt, soit le lien purement moral, soit le lien légal. Les récriminations et les reproches s'élèvent principalement quand on a contracté la liaison et qu'on la cesse sous l'influence d'une amitié que l'on ne comprenait pas des deux côtés de la même manière. Paragraphe 6. La liaison légale, celle qui se fonde sur des stipulations expresses, est tantôt toute mercantile, et comme l'on dit, le marché a lieu de la main à la main, tantôt elle est un peu plus libérale et elle se fait à temps. Mais des deux parts, il y a toujours une convention de se donner plus tard telle chose pour telle autre chose. La dette, dans ce cas, est parfaitement claire et ne peut donner lieu à la moindre contestation. Mais le délai qu'on accorde montre l'affection et la confiance que l'on a pour celui avec qui l'on traite. Voilà pourquoi, chez quelques peuples, il n'y a pas d'action judiciaire ouverte pour ces sortes de marchés, attendu que l'on suppose toujours que ceux qui contractent ainsi de confiance doivent avoir une affection réciproque. Paragraphe 7. Quant à la liaison morale en ce genre, elle ne repose pas sur des conventions positives. On a l'air de faire un don, comme si l'on s'adressait à un ami, ou du moins on a quelques sentiments analogues. Mais au fond, on s'attend bien à recevoir l'équivalent de ce qu'on a donné, ou peut-être même davantage, parce qu'on n'a pas fait un pur don et qu'on a plutôt fait un prêt. Paragraphe 8. Lorsque la convention ne se résout pas dans les mêmes termes où l'on avait cru primitivement la passer, on élève des plaintes. Et si les réclamations sont si fréquentes dans la vie, Cela vient de ce qu'ordinairement, tous les hommes, ou du moins la plupart des hommes, ont bien l'intention de faire une belle chose, mais en fait, ils choisissent la chose utile. Or, s'il est beau de faire du bien sans songer à rien recevoir, en retour, il est utile de recevoir un service. Paragraphe 9. Quand on le peut, il faut toujours rendre, selon le cas, tout ce qu'on a reçu, et il faut le rendre de bonne grâce. On ne doit pas se faire un ami de quelqu'un malgré lui, et si l'on rendait à contre-cœur, on aurait l'air de s'être trompé au début et d'avoir reçu un service d'une personne de qui il ne fallait pas l'accepter. On ne semblerait plus dès lors l'avoir reçu d'un ami et d'une personne qui vous aurait servi pour la simple satisfaction de vous servir. Il faut donc toujours se dégager des obligations qu'on a reçues comme s'il y avait eu des conventions expresses. Il faut dire qu'on n'aurait point hésité à rendre le même service si l'on avait été dans le cas de le faire et qu'on est persuadé que si l'on était actuellement hors d'état de rendre, celui qui a prêté n'hésiterait pas à ne point exiger sa dette. Mais dès qu'on le peut, je le répète, il faut s'acquitter. Et c'est dans le principe qu'il convient d'examiner de qui l'on reçoit un service et à quelles conditions on le reçoit, afin de bien savoir si l'on veut ou non les accepter et les subir. Paragraphe 10. Mais un doute s'élève ici. Faut-il mesurer le service rendu par l'utilité seule qu'en tire celui qui la reçoit, et le rendre à son tour dans cette proportion précisément? Ou bien ne faut-il se régler que sur la bienfaisance de celui qui oblige? Les obligés sont en général assez portés à prétendre que ce qu'ils reçoivent de leurs bienfaiteurs est pour ceux-ci sans importance, et que bien d'autres encore auraient pu tout aussi bien le leur donner. Ils déprécient et rapetissent le service qu'on leur a rendu. Les bienfaiteurs, au contraire, prétendent que ce qu'ils ont donné avait pour eux la plus haute importance, que d'autres qu'eux n'auraient jamais pu l'accorder, surtout dans les circonstances périlleuses et dans les embarras insurmontables où l'on se trouvait. Paragraphe 11. Entre ces contradictions, faut-il donc reconnaître que, quand la liaison n'est fondée que sur l'intérêt, le profit de celui qui reçoit le service est la vraie mesure de ce qu'il doit rendre. C'est lui qui a demandé le service, et en le lui rendant, on avait la conviction qu'on recevrait plus tard de lui un juste équivalent. Ainsi, l'aide qu'on lui a donnée est précisément aussi grande que le profit qu'il en a fait, et il doit rendre autant qu'il en a tiré et même davantage, ce qui serait encore plus beau. Paragraphe 12. Mais dans les amitiés qui ne sont formées que par vertu, il n'y a pas à redouter des récriminations et des plaintes. L'intention de celui qui oblige est ici la seule mesure, puisqu'en fait de vertu et de choses de cœur, c'est l'intention qui est toujours le principal. Chapitre 14. Sommaire. Des dissentiments dans les liaisons où l'un des deux est supérieur à l'autre. Chacun tire de l'amitié ce qu'il doit en retirer. L'un, l'honneur, l'autre, le profit. Des honneurs publics. Des rapports dans lesquels il est impossible à l'homme de s'acquitter pleinement. Vénération envers les dieux et envers les parents. Relations du père et du fils. Paragraphe 1. Il peut donc encore s'élever des dissentiments dans les liaisons où l'un des deux est supérieur à l'autre. Chacun de son côté peut croire qu'il mérite plus qu'on ne lui donne. Et quand cette dissidence se produit, l'amitié se rompt bientôt. Celui qui est vraiment au-dessus de l'autre croit qu'il lui appartient d'avoir davantage, puisqu'il faut que la part la plus forte aille toujours au mérite et à la vertu. De son côté, celui qui est le plus utile des deux fait la même réflexion, car on soutient avec raison que l'homme qui ne rend aucun service utile ne peut obtenir une part égale. C'est alors une charge et une servitude. Ce n'est plus une réelle amitié quand les avantages qui viennent de cette amitié ne sont pas proportionnés à la valeur des services rendus. De même que dans une association de capitaux, ceux qui apportent davantage doivent avoir aussi une plus forte part dans les bénéfices, de même, à ce qu'il suppose, il doit en être ainsi dans l'amitié. Mais celui qui est dans le besoin et la gêne, et qui est inférieur, fait un raisonnement contraire. À ses yeux, rendre service à qui se trouve dans le besoin, c'est le devoir d'un bon et véritable ami. Le beau profit, disent-ils, d'être l'ami d'un homme vertueux et puissant si l'on n'en doit rien retirer. Paragraphe 2. L'un et l'autre, chacun de leur côté, semblent avoir raison, et il faut en effet que chacun d'eux tire de sa liaison une part plus forte. Seulement, ce n'est point une part de la même chose. Le supérieur aura plus d'honneur, celui qui est dans le besoin aura plus de profit, car l'honneur est le prix de la vertu et de la bienfaisance, et le profit est le secours qu'on donne aux besoins. Paragraphe 3. C'est là aussi ce qu'on peut remarquer dans l'administration des États. Il n'y a point d'honneur pour celui qui ne rend aucun service au public. Le bien du public n'est accordé qu'à l'homme de qui le public a reçu des services. Et ici, le bien du public, c'est l'honneur, la considération. On ne peut donc tout à la fois tirer profit et honneur de la chose publique. Personne ne supporte longtemps d'avoir moins qu'il ne lui revient sous tous les rapports. Mais on donne honneur et respect à celui qui ne peut recevoir d'argent et qui, à cet égard, est toujours moins bien traité que les autres. On donne de l'argent, au contraire, à celui qui peut recevoir de tels présents, car c'est en traitant toujours chacun en proportion de son mérite que l'on égalise et qu'on entretient l'amitié, ainsi que je l'ai déjà dit. Paragraphe 4. Tels sont aussi les rapports qui doivent exister entre des gens inégaux. On rend en respect et en déférence les services d'argent et de vertu qu'on a reçus. Et l'on s'acquitte quand on le peut, parce que l'amitié demande encore plus ce qu'on peut que ce qu'elle mérite. Paragraphe 5. Il y a bien des cas, en effet, où il est impossible de s'acquitter pleinement de ce qu'on doit. Par exemple, dans la vénération que nous devons avoir envers les dieux et envers nos parents. Or, personne ne peut jamais leur donner tout ce qui leur est dû. Mais celui qui les adore et les vénère autant qu'il le peut a rempli tout son devoir. Aussi semble-t-il qu'il n'est pas permis à un fils de renier son père, tandis qu'un père peut renier son fils. Quand on doit, il faut s'acquitter. Mais comme un fils n'a jamais pu rien faire d'équivalent à ce qu'il a reçu, il reste toujours le débiteur de son père. Ceux, au contraire, à qui l'on doit, sont toujours maîtres de libérer leur débiteur. Et c'est là le droit dont use le père à l'égard de son fils. D'ailleurs, il n'est pas un père qui, de son côté, voulût se séparer de son fils, si ce n'est quand ce fils est d'une incurable perversité. Car, outre l'affection naturelle qu'un père a toujours pour son enfant, il n'est pas, dans le cœur humain, de repousser l'appui dont on peut avoir besoin. Quant au fils, il faut qu'il soit bien corrompu pour s'affranchir du soin de soutenir son père, ou pour ne le soutenir qu'avec une insuffisante sollicitude. C'est que la plupart des hommes ne demandent pas mieux que de recevoir du bien. Mais en faire à d'autres, leur semble une chose à fuir comme trop peu profitable. Je ne veux pas, du reste, pousser plus loin ce que j'avais à dire sur ce point. Fin du livre 8e.